L'invité du morning.
Vous êtes à l'écoute du Morning LFM. Installez-vous confortablement. Il est 8h16. Il est temps pour nous, Arvin, de recevoir notre invité du jour. Alors, nous avons déjà évoqué le Festival du Livre d'Aubergenville qui se tiendra le 19 mars prochain avec Stéphanie Delima notamment. Et aujourd'hui, nous sommes avec Corinne Debrilly, autrice biographe qui sera présente sur le festival. Corinne Debrilly, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes membre certifié de l'AEPF, c'est l'Académie des écrivains publics de France. Depuis 2016, vous êtes membre certifié. Corinne Debrilly, en quoi consiste le travail d'un écrivain public ?
Alors le travail d'un écrivain public, c'est d'écrire pour les autres. Et en fait, donc, en termes d'interlocuteurs, nous avons des jeunes étudiants qui peuvent venir vers nous pour nous demander des corrections de rapports de stage, des corrections de thèse aussi.
De mémoire.
Voilà, de mémoire d'études, de mémoire de fin d'études. Et il y a aussi ce qu'on appelle les permanences en mairie, où là, ce sont des personnes qui viennent pour qu'on les aide à écrire des lettres, des courriers administratifs.
D'accord.
Et l'autre pan, c'est ce pourquoi je suis spécialisée. Je suis écrivain public biographe. Et biographe, donc là, ce sont...
Vous écrivez la vie des autres.
Oui, c'est ça, la vie des autres. Et en général, c'est des personnes qui viennent juste d'être en retraite ou qui ont des problématiques de santé aussi parfois. Jusqu'à la plupart des personnes avec qui je travaille ont plus de 90 ans quand même.
On en parlera tout à l'heure en détail. Vous êtes également membre d'Agréage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette association ?
Oui, alors Agréage, c'est le premier site dédié aux loisirs des personnes âgées.
D'accord.
Et en fait, principalement, ce sont des prestataires de services auprès des personnes âgées qui interviennent soit en établissement, soit à domicile. Et la particularité d'Agréage, c'est que Ils appellent les personnes avec qui vous travaillez pour vérifier votre fiabilité professionnelle. Donc ça, j'ai apprécié cet aspect-là, parce que donc ils m'ont demandé les coordonnées des personnes avec qui je travaillais. J'ai demandé à ces personnes-là si elles étaient d'accord pour qu'on les contacte, et ça s'est fait comme ça. Donc je n'ai pas su qui a été contacté, parce qu'elle m'avait demandé 4 numéros, et donc elle en a appelé 2. Et donc voilà. Ça veut dire 4 numéros, ça veut dire 4 personnes, 4 clients. Ça veut dire que vous êtes vraiment installé en tant que professionnel et que vous avez une crédibilité à maintenir. Parce qu'il faut savoir que le métier d'écrivain public n'est absolument pas réglementé.
D'accord, ok.
Donc demain, vous pouvez ouvrir un cabinet en vous disant « ça y est, je suis écrivain public », vous mettez un panneau sur votre porte et puis vous n'avez pas forcément de diplôme correspondant.
D'accord, donc Agréage, c'est une sorte de caution. Agréage,
c'est une caution pour tous les métiers qui concernent le grand âge.
Oh, d'accord.
Et à côté de ça, l'Académie des écrivains publics de France, ça a été le premier organisme créé en 1980 et ce sont les premiers à instaurer des tests à l'entrée.
D'accord. Donc vous écrivez également sur la vie des autres à leur demande en tant que biographe. Qui sont ces personnes qui font appel à vous ?
J'ai tous les profils globalement, mais en revanche, ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a 3 motivations. La première, c'est rendre hommage à un ancêtre disparu.
D'accord.
C'est quand même, ça reste assez confidentiel. J'en ai pas eu beaucoup jusqu'à présent. Sur une dizaine de clients, j'ai eu deux cas où il a fallu, faire un gros travail parce que c'était quand les personnes sont décédées, on les a pas en face de soi pour avoir de l'information. D'ailleurs, ça n'a pas été que des biographies, puisque j'ai fait également la transcription de 5 cahiers manuscrits qui avaient appartenu, qui avaient été rédigés par un médecin.
Une sorte de journal intime.
Oui, et surtout, il avait été emprisonné dans un camp en Allemagne pendant la Seconde Guerre. Donc, c'était un témoignage assez intéressant.
Donc, c'est un travail. Vous travaillez sur la mémoire.
Exactement, complètement.
Avec
complètement.
Un grand M.
Voilà, oui. Oui, parce que, vous allez me poser toutes les questions qui sont prévues globalement. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis assez passionnée.
Et quelles sont justement les attentes de ces personnes qui font appel à vous ?
Oui, alors, donc, En premier, il y a... je reprends le fil. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude.
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de mal, vous inquiétez
on,
pas.
On est sur le... On se détend, on est... Donc on est cool par ici.
Le premier motif, c'est l'hommage à une personne disparue. Le deuxième motif, c'est transmettre à ses enfants. Et le dernier motif, c'est mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, hein, selon l'expression consacrée. Donc globalement, le profil de personne, ça peut être quelqu'un de 60-65 ans qui a une problématique de santé plus ou moins grave et elle veut laisser une trace ou elle veut transmettre, et jusqu'à des personnes qui ont 88-92 ans. Et là, c'est vraiment de l'information historique, de l'information... Donc, comment ces personnes-là ont vécu dans les années 40, dans les années 50, hein, c'est, pour les jeunes générations, c'est vraiment instructif de savoir comment ils ont vécu. Parce que l'histoire, la vraie, la véritable histoire, n'est pas marquée dans les livres d'histoire.
Et comment vous faites pour recueillir la parole et la coucher sur le papier? Comment ça se passe? On vous raconte les choses et vous les retranscrivez telles quelles? Ou... est-ce que vous restez externe à leur histoire ou est-ce que vous vous y plongez en vous mettant à leur place? Comment vous faites?
C'est une excellente question.
Merci.
Donc, surtout la deuxième. Donc, la première, je viens avec un petit appareil qui me permet d'enregistrer la voix.
D'accord.
Je retranscris et ensuite je retravaille le récit. Il y a différents niveaux de travail là-dessus, parce qu'on peut se contenter simplement de rédiger l'intégralité de la parole sans faire de grosses modifications. Et il y a un niveau d'intervention qui est un peu plus poussé, parce que en même temps je suis un peu synesthète. Synesthète, c'est quand on mobilise plusieurs sens en même temps. Donc je vois les émotions en couleur et je perçois
très
rapidement.
Voilà, c'est la synesthésie, c'est le percevoir les couleurs, les émotions, mettre l'amour, c'est le
ça
vert.
Voilà. C'est ça, ça fonctionne avec les couleurs. La plupart du temps, je n'ai pas besoin, enfin je devine ce qu'ils vont me dire. Surtout quand il s'agit de mettre des mots sur les mots.
D'accord.
Ça m'est arrivé plusieurs fois.
Est-ce qu'il y a une histoire qui, en particulier, qui vous a touché?
Oui, c'est une dame qui était arrivée en France très très jeune et elle a eu une vie très 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 difficile toute sa vie avec ses parents, avec son mari, avec ses enfants. Elle a eu une vie douloureuse tout le temps. Et puis au bout du quatrième ou cinquième entretien, je lui ai dit, mais en fin de compte, vous n'avez jamais su dire non. Vous avez dit oui toute votre vie à tout le monde. Et donc, il s'est passé quelques semaines. C'était sa fille qui finançait la biographie. Et je l'ai au téléphone. Et puis, elle me dit, mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Elle dit non à tout. Donc, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai vécu un an à Montréal, j'ai vécu 4 ans en Indonésie. Et donc, ce qu'elle me racontait par rapport à son arrivée en France, par rapport à ce qui est arrivé en France juste après la Seconde Guerre, à une époque où les paysages en France n'étaient pas très très jolis à voir. Caen a été complètement... parce que c'était en Normandie, elle a débarqué en Normandie. Et Caen a été complètement détruit pendant la Guerre mondiale. La seule chose qui restait debout, c'était la cathédrale. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a touchée. Globalement, toutes les histoires me touchent.
J'imagine, parce que si vous êtes dans l'empathie, vraiment, en prenant ces témoignages, forcément, à un moment, peut-être que vous vous faites des pauses en disant « Oh, là, ce que vous venez de me raconter, c'est... il faut que je digère. »
C'est la grosse, grosse difficulté. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être empathique, mais pas trop. Faut rester avec le poker face.
C'est vraiment, faut avoir une distance...
Oui.
Être dans l'histoire en même temps, garder sa distance.
Garder sa distance parce que je ne sais pas si vous avez noté ça, mais quand vous avez quelqu'un physiquement en face de vous, il y a des personnes qui ont des niveaux d'énergie différents.
Et il y en a qui vous fatiguent. Vraiment, oui.
C'est ça.
Et après une discussion avec ces personnes, vous êtes
fatigués. Qui prennent toute joie de vivre.
Il m'est arrivé, il n'y a pas très très longtemps, au mois de décembre, je suis rentrée d'un rendez-vous qui avait duré seulement 1h30. J'étais, mais lessivée, épuisée. Et alors que d'habitude, je rentre d'un rendez-vous, ça dure en moyenne 2 heures. Parfois, quand les personnes, elles sont relativement jeunes, entre guillemets, et elles ont l'énergie, ça dure 3 heures, je suis... normalement fatiguée, et parfois je suis à peine fatiguée. Quoi. Et là, cette fois-là, avec cette personne-là, je suis rentrée, mais j'étais complètement naze.
Corinne Debrie, en 2022, vous avez publié un thriller intitulé Tyrannie et Châtiment, paru chez les éditions du Net, sous le pseudonyme d'Elma Slafolger, je sais pas trop comment le dire.
Oui, Slafolger.
Ouais. Sous-titré Vie et meurtre parfait du tyran moderne. Alors, vous avez ce livre, avec ce livre, vous étiez finaliste du prix du livre au vert de Courcelles-Chaussy en novembre 2022, sur environ 80 romans de tout genre confondus. C'est un roman tiré d'une histoire vraie. Est-ce que vous pouvez nous parler du fait divers qui vous a inspiré l'écriture de ce roman et pourquoi vous avez souhaité vous en saisir ?
Alors, ça n'est pas un fait divers. Ça a été simplement un concours de circonstances. J'ai passé 4 ans en Indonésie. Pendant ces 4 ans-là, j'ai perdu de vue une amie. Mmh. Et quand je suis partie là-bas, en Indonésie, à Bali, elle était sur le point de divorcer et elle avait rencontré une deuxième personne. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte qu'elle avait vécu 4 ans infernaux.
D'accord.
Vraiment de l'enfer avec un grand E. Et elle était dans un processus de second divorce. Et entre-temps, donc, je suis rentrée en 2015. 2016, j'avais mon agrément à EPF. Et évidemment, on était contents de se retrouver parce que pendant 4 ans, moi, j'avais aussi mes soucis d'expatrié. Donc, elle s'était réinscrite sur des sites de rencontres, Tinder... et compagnie, Mythique et compagnie. On s'était dit, puisque tu as des histoires très très drôles à raconter sur tes rendez-vous, on va écrire ensemble un livre humoristique. Et j'ai procédé comme je commençais à le faire avec l'EPF, donc je l'ai interviewée. La première interview s'est très bien passée, la deuxième, elle était au bord des larmes et je lui ai dit attends, on arrête, c'est bon là. Donc elle m'a fourni quelques informations, mais vraiment pas grand chose. Et par la suite, je l'ai jamais plus questionné que ça. Parce que j'ai bien senti.
Donc c'est
que
l'histoire de cette amie que vous avez retranscrite dans Tyrannie et Châtiment.
Oui, donc comme j'ai pas su et j'ai pas voulu fouiller plus dans ce qu'elle avait vécu, j'ai fait 50% basé sur du réel et 50% de la pure fiction parce que je me suis retrouvée avec quelque chose de très décousu. J'avais la première partie de vie que je connaissais qui était à peu près entre guillemets normale, si on peut dire qu'une vie de couple est normale. Ces 4 ans de trou, j'avais très très peu d'informations parce que quand j'ai vu qu'elle était au bord de l'âme, j'ai tout de suite arrêté. Et la troisième interview, c'était très léger, très drôle, manquant un peu de profondeur. Donc, quand je suis rentrée, mon mari m'a dit « Mais pourquoi t'en fais pas un thriller de ces 4 ans de trou ?»
D'accord.
Et donc, du coup, je suis revenue vers elle, elle m'a dit « Ah ouais, c'est excellent, c'est une bonne idée, mais je veux pas qu'on me reconnaisse, donc il faut que tu fasses pas mal de changements. » Donc, j'ai fait 3 ans de travail discontinu. Donc, en global, je pense que j'ai dû travailler pendant 9 mois sur ce truc.
Donc, c'est l'histoire d'une femme qui vit avec un tyran, c'est ça, avec une personne toxique.
Oui. Le vrai, vrai pervers narcissique, si vous voulez, il cochait toutes les cases.
D'accord.
Et elle avait été poussée au bord du suicide, et c'est son patron qui lui a dit vous devez aller consulter un psychiatre,
d'accord,
un psychologue. Et donc elle a été sauvée du suicide par ce rendez-vous. Mm-hmm. Et donc moi, quand je suis rentrée de l'étranger, elle avait déjà passé ce cap. Hein,
et c'est ce qui lui a peut-être permis de vous exposer après son histoire.
Exactement. Mais c'était encore frais dans sa mémoire, donc c'est pour ça que je me suis vraiment. Il y a 50% de réel et 50% de fiction dans Tyrannie et Châtiment.
D'accord. Corinne Debrie, on va marquer une courte pause musicale. On se retrouve après pour continuer à parler parce que vous avez aussi travaillé sur le genre de la poésie. Tout de suite, on écoute Aya Nakamura. Chakola, c'est cadeau.
Super.
Les morceaux les plus tôt. L'invité du morning.
Vous êtes à l'écoute du Morning LFM. Nous sommes aujourd'hui avec Corinne Debrie, autrice, biographe, membre certifié de l'Académie des écrivains publics de France et de Agréage. Corinne, vous avez également écrit un recueil de poèmes avec un collectif de plusieurs auteurs et autrices qui s'appelle Carré Compiègne, dont la thématique se concentre sur le sentiment au sens large du terme, sur les émotions. Il devrait sortir cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler du collectif Carré Compiègne rapidement?
Alors, le Carré Compiègne porte le nom
de
la ville de Compiègne parce que nous nous sommes tous rencontrés au salon de Compiègne l'an dernier au mois de juin 2022 dans l'Oise. Et il y a eu une opération un petit peu indélicate de la part d'un autre salon. Et donc, on s'est retrouvés à entre 40 et 60 auteurs, je crois, sur place dans les salons de l'hôtel Ibis de Compiègne. Et nous n'avons eu absolument aucune visite extérieure. L'autre salon qui avait eu lieu une semaine avant avait fait en sorte que les tracts ne soient pas distribués.
Ah mince. Donc, un sabotage.
Un petit peu, oui, un petit peu saboté. Il y a eu quelques clients qui passaient la nuit du samedi au dimanche dans l'hôtel, qui sont descendus le dimanche matin. Mais en plus, c'était vraiment bien organisé parce que je devais animer un atelier de correction. J'avais deux autres collègues qui animaient aussi un atelier. Et en fait, il y a émergé de cet événement et de ce contexte-là une formidable énergie. On s'est acheté les ouvrages les uns les autres. On a gardé contact. Serena Davis a créé un collectif pour les lectures communes. Et moi, j'avais ce projet de poème dans mes tiroirs depuis tellement de temps. Je leur ai dit, bah tiens, sur un WhatsApp, je leur ai dit, est-ce que qui parmi vous veut s'embringuer dans un projet de recueil de poèmes? Et là, bah, d'un seul coup, j'ai eu 3, 4, 5, 6, 8 personnes. Et on a été jusqu'à 11.
Vous êtes combien au final?
Au final, nous sommes 9.
D'accord.
Et j'ai eu un ami aussi sur Mantes, un ancien de l'atelier d'écriture de Mantes, qui m'a dit oui. Et il avait déjà écrit des chansons qui ont été produites et pour lesquelles il a perçu des droits. Donc vous voyez, il y a eu des circonstances très très favorables. J'ai réussi à générer de la confiance et de la motivation. Et en parallèle, on s'aperçoit de plus en plus que les gens... ça revient un peu au goût du jour, la poésie.
Eh ben, on en parlait justement avec Stéphanie de Lima. C'est un genre qu'on associe à l'école, quoi, la poésie.
Un peu.
Et qui revient aujourd'hui, des poèmes engagés, les auteurs et les autrices se réapproprient le genre. Voilà.
Et si vous voulez, pour susciter l'intérêt, j'ai dès le départ imposé la contrainte de la rime.
Ok.
Donc,
parce que le vers libre, c'est un peu plus difficile à suivre, quoi.
Je trouve. En plus, j'ai l'oreille sensible et du coup, j'ai vraiment cherché une musicalité, la résonance en termes d'allitération et d'assonance et ça a plu. De là est arrivée l'idée.
Allitération, assonance. Allitération, c'est les rimes en consonne et assonance en voyelle.
Plus ou moins. Ce ne sont pas des rimes,
c'est
des sons qui reviennent.
Voilà, c'est des sons.
Les sanglots longs.
C'est ça. Voilà. Pour ceux qui. ça remonte peut-être l'école. Et que manque-t-il au projet afin qu'il sorte?
Alors, figurez-vous que dedans, il y a des haïkus japonais et il y a des QR codes avec des vidéos. Et du fait qu'il y a 100 poèmes. 100 poèmes, ça pèse. Hein. Tous les éditeurs à compte d'auteurs et tous les éditeurs à compte participatif nous ont dit oui et on a reçu plusieurs propositions, plusieurs contrats, plusieurs devis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les éditeurs à compte d'éditeurs. C'est ce qu'on cible évidemment parce que... on veut bien céder les droits, mais pour qu'il y ait derrière de la promotion.
Donc là, c'est des questions de sous qui manquent pour que ça sorte.
C'est pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que les éditeurs à compte d'éditeurs ont une ouverture en termes de promotion et de distribution surtout, qui n'est absolument pas comparable à d'autres éditeurs.
D'accord.
Donc, si on veut l'auto-éditer, là, c'est aussi intéressant parce qu'on ne va pas céder les droits d'exploitation.
D'accord.
Mais en même temps, il faut pouvoir faire de la promotion, pouvoir faire connaître une œuvre. Donc, les Mercure de France nous ont confirmé qu'un lecteur nous avait été attribué et qu'on passe en commission le 25 mars.
D'accord.
Et donc, c'est ce qui nous manque, c'est ça. C'est un compte, un éditeur à compte d'éditeur. Et si jamais le recueil tel qu'il existe aujourd'hui n'intéresse pas les éditeurs qui travaillent à compte d'éditeur, on va l'auto-éditer nous-mêmes.
Ok.
Alors, l'ouverture est déjà dessinée d'ailleurs.
J'aurais aimé lire l'un des poèmes, mais là, on manque de temps, malheureusement.
Ah, je vous ai dit.
Pour finir rapidement, où peut-on vous retrouver, Corinne Debris, en dehors du Festival du Livre d'Aubergenville du 19 mars prochain?
Alors, je suis en théorie à Brinda, à côté de Lyon, ce week-end.
D'accord.
Si les trains circulent. À Kiev le 26 mars, à Triel-sur-Seine le 15 avril. Je suis aussi présente à la 5e journée de l'écrivain public de l'AEPF le vendredi 26 mai. Et j'enchaîne derrière à Bondeville en Normandie le samedi 27 et le dimanche 28 mai. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site biographe-online.com. Et puis, je donne des cours à des élèves, à des étudiants en formation continue le soir à la fac de droit de Guyancourt et la fac de sciences de Versailles, qui font partie toutes les deux de l'UVSQ, l'université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines.
Corinne Debry, merci d'être... Dites-moi.
Excusez-moi. Très rapidement. Est-ce que je peux faire une dédicace à Jules, mon fils, il a 18 ans aujourd'hui. Bon anniversaire.
Joyeux anniversaire, Jules.
Merci.
Corinne Debry, merci beaucoup d'être passée par le Morning LFM.
Merci à vous.
Je précise que cette interview a été préparée en collaboration avec Candice, notre stagiaire à LFM Radio et qui est avec Arvin et moi sur le Morning. Et qu'elle, cette interview sera podcastée sur le site. Vous pourrez la réécouter sur le www.lfm-radio.com. Allez, tout de suite, c'est le retour. Merci.